Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
C'est difficile. On va essayer. C'est trop lent.
Bonjour à vous, les amoureux de Léni, et j'espère que vous êtes de plus en plus amoureux, ou de plus en plus nombreux à le devenir. Cette fois, je voudrais, pour donner un titre à cet épisode, employer un des jeux de mots chéris de Léni. Vienne, sa ville palpitando. Comme je vous l'ai raconté à dessein depuis le début de notre saga, Léni, quand bien même il est l'Américain par excellence, a toujours eu un pied en Europe. De par la tradition hassidique de sa famille, de par ses professeurs, tous d'origine européenne, de par son répertoire, Vienne a toujours été dans un petit coin de son berceau. Mais Vienne, c'est aussi la ville qui a chassé Gustav Mahler, le chef d'orchestre et compositeur auquel Léni s'est toujours identifié. Il veut obtenir réparation pour son héros. Ce n'est donc pas une relation qui s'engage sous les meilleurs auspices. Et puis il y a une autre raison pour que la rencontre entre l'orchestre de Vienne et Léni soit explosive. Il va affronter les démons, les vrais. Les nazis cachés dans les replis de l'histoire de l'orchestre. Il va les débusquer avec son sourire, son énergie et sa formidable intelligence de l'autre. Et il va les faire plier par amour de la musique. Voilà pourquoi Léni, le juif américain, lorsqu'il débarque à Vienne, peut bien murmurer en lui-même un balsacien « À nous deux, Vienne ». Aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus que Leni sur l'orchestre de Vienne, car en 2013, trois historiens, dont Oliver Reskolb, ont ouvert les archives et en ont fait un compte-rendu. Leurs recherches leur permettent d'affirmer qu'avant 1938, alors que le parti nazi était encore clandestin en Autriche, 20% des musiciens de l'orchestre philharmonique de Vienne y étaient inscrits. À partir de l'Anschluss, l'invasion de l'Autriche, les nazis ont renvoyé du jour au lendemain tous les artistes juifs. Oliver Reskolb.
The Vienna Philharmonic Orchestra consisted in 1938 of
L'orchestre philharmonique de Vienne, après 1938, c'est plus ou moins 126 musiciens.
And more than 50% of them either joined the Nazi party.
Et plus de 50% parmi eux ont rejoint le parti nazi après 1938.
Approximately 40% of the musicians already have joined.
Mais environ 40% l'avaient déjà rejoint juste avant.
En 1938, 13 musiciens juifs sont chassés du jour au lendemain. Parmi eux, 6 ont été assassinés dans les camps d'extermination. Les 11 musiciens mariés à des femmes juives, ou dits demi-juifs selon le vocabulaire de l'époque, ont bénéficié d'une permission spéciale pour rester au sein de l'orchestre à la demande de Furtwängler. Le chef d'orchestre avait trouvé un argument imparable. Avec 24 musiciens en moins, l'orchestre aurait brutalement perdu de sa qualité. L'aventure avec Leni commence grâce à l'opéra. Sur les conseils de son collègue Georg Solti, Leni avale sa fierté et accepte une invitation à Vienne en 1966. Karajan est parti, du coup la place est libre, et on a besoin de sang neuf, de légèreté et surtout d'un éclat international. Vienne réclame l'autre star de la baguette, Leonard Bernstein. Le voilà donc qui fait ses débuts dans une production signée de son vieil ami Luchino Visconti, un Falstaff interprété par Dietrich Fischer-Dieskau.
Mon premier contact avec le Philharmonique de Vienne s'est fait dans le répertoire lyrique pour Falstaff en 1966. Je n'oublierai jamais cette première répétition. Nous étions tous tellement nerveux. Je me souviens que je m'étais fait une liste en pensant gagner du temps au moment de faire mon premier pas sur ce podium. Je voulais juste signaler des petits changements de dynamique, quelques pièges à éviter, etc. Et tout à coup, je me suis aperçu que 10 minutes étaient passées et il commençait à s'agiter. Nous n'avions pas encore joué une seule note et l'un des membres du comité de l'orchestre me faisait des signes. Allez, allez. J'ai fini par comprendre et nous avons commencé sur les chapeaux de roue dès la troisième mesure sans qu'on puisse nous arrêter. Nous savions que cette relation durerait toute notre vie.
Contrairement à l'Orchestre Philharmonique de New York que Leni s'était évertué à rendre flexible pour qu'il puisse jouer tous les répertoires, l'Orchestre de Vienne tient sa gloire d'un répertoire choisi mais surtout restreint. Schubert, Mozart, Haydn, Beethoven, Bruckner, Brahms. Des œuvres sans cesse remises sur le pupitre, ce qui est à l'origine de leur son absolument unique. Il y a d'autres raisons à ce son particulier. les 153 membres ont respiré le même air musical viennois depuis leur enfance, ont étudié à l'Académie de musique de la ville et sont musiciens de père en fils. Certainement pas de mère en fille, puisque dans les années 60, il n'y avait toujours pas de femmes dans l'orchestre. Le public est tout autant traditionnel. Les abonnements de saison, renouvelés quasiment à vie, sont ensuite transmis de parents à enfants. Pouvez-vous imaginer le choc culturel, le chien dans le jeu de quilles qu'a pu représenter notre Lenny, pétri d'éclectisme, l'humoriste narquois, le dingue de jazz, qui, à la cinquantaine, n'a rien perdu de sa fougue. Rappelons-nous à quel point le premier voyage de Lenny à Vienne après-guerre lui avait été pénible. Il écrivait à son assistante Hélène Coates qu'il voyait le nazisme à chaque coin de rue. Oliver Raskolb confirme son impression. Aucun effort sérieux de dénazification, terme utilisé à l'époque, n'a été entrepris au sein de la Philharmonie après la guerre.
Après la libération à Vienne, seulement quelques musiciens ont été forcés de quitter l'orchestre. Les anciens directeurs qui avaient appartenu au parti nazi ont été mis dehors, mais la majorité, environ 40% des membres qui appartenaient à la fois à l'orchestre et au parti nazi, ont continué à jouer dans l'orchestre.
Pourquoi ? Mais si ces 40% de musiciens avaient dû quitter l'orchestre du jour au lendemain, alors le fameux son de Vienne aurait disparu. Et oui, l'histoire s'est retournée.
Thank you.
Cette ombre du passé plombe encore l'orchestre lorsque Lenny arrive. Ne serait-ce que parce que le trompettiste Helmut Wöbisch est directeur de l'orchestre. Helmut Wöbisch est membre du parti nazi dès 1933. Après l'Anschluss, en 1938, il est promu officier espion au service de la Gestapo. En 1939, Wöbisch devient membre de l'orchestre philharmonique de Vienne avec le titre de chambriste. Après la guerre, il a certes été renvoyé en raison de la loi d'interdiction de jouer pour tous les musiciens affiliés au parti nazi. Mais il est réintégré en 1951 et accède à la présidence de l'orchestre. Or, le Philharmonique de Vienne fonctionne quasiment en autogestion. Ce sont les musiciens qui décident des chefs à engager, du répertoire à jouer et à enregistrer. Wöbisch a donc été plébiscité pour diriger l'orchestre puisqu'il y restera jusqu'en 67-68. Au fil des années, Lenny et Wöbisch sont engagés dans une relation prudente, mais ils ont travaillé ensemble. Lenny l'appelait « mi fig mi raisin, mon cher nazi ». Jamie, la fille de Lenny, en a parlé avec son père.
Vous savez, même si c'était difficile de travailler avec des gens qui avaient été nazis ou qui avaient été sympathisants des nazis pendant la guerre, ça a dû lui donner un petit frisson d'avoir cette relation de travail avec des gens qui étaient des ennemis jurés ou qui auraient pu l'être. À cette époque-là, il y avait quelque chose de cool de transformer cette animosité en amour. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Lorsque Lenny revient à l'Opéra de Vienne en 69, c'est la consécration. Il dirige la Missa Solemnis de Beethoven pour célébrer le centenaire de l'Opéra. En 70, il a l'insigne honneur de diriger un Fidelio pour le bicentenaire de la naissance de Beethoven. Un privilège inouï. Et 2 ans plus tard, il revient pour une toute nouvelle production du Chevalier à la Rose, mise en scène par Otto Schenk. Jamais les Viennois n'avaient vu cet opéra présenté aussi librement, eux qui connaissent cette œuvre sur le bout des doigts. « Chaque chauffeur de taxi à Vienne connaît mieux la partition que moi », dit Lenny. La presse compare son succès à celui de Mahler à ses débuts à Vienne. Son West Side Story est donné en allemand. Plus incroyable encore, on dit de lui qu'il est l'enfant chéri de la ville. Un journal viennois titre « Une idole à Vienne pour toujours ». Il faut dire que Lenny, malin, fait mine de ne pas arriver en conquérant, mais chasser le naturel. Répétition au Musikverein. Il commence par embrasser le premier violon. Il est applaudi par l'orchestre.
Morgen.
Bonjour.
Grüß Gott.
Bonjour.
Servus.
Salut.
Also, wir haben schon ein,
nous avons déjà réalisé un magnifique Falstaff.
Jetzt kommt was
Voici
anderes.
Autre chose.
Ich habe, eine Entschuldigung.
Il y a quelque chose dont je tiens à m'excuser.
Dass, wir Mozart
spielen. Le fait que nous jouions Mozart.
Das ist Ihre Musik.
C'est votre musique.
Ich, glaube, es ist auch meine Musik.
Je crois que c'est aussi la mienne,
aber es ist viel mehr,
mais c'est surtout la vôtre.
Ihre Musik. Ich hoffe, dass ich etwas
J'espère que vous pourrez m'apprendre quelque chose.
Von Ihnen, die Stimmung, die Wienerische
L'atmosphère viennoise.
Und Phrasierung.
Le phrasé.
Wenn Sie etwas haben, mir zu sagen,
si vous avez quelque chose à me dire, à me proposer,
suggestion, so. Bitte machen Sie das.
Surtout faites-le. Ah. S'il y a quelque chose que je ne fais pas selon la tradition, dites-le aussi. Je vous donne toute la mesure. Les vents plus doux.
Il jette un œil noir du côté des contrebasses et interrompt la répétition au bout de 27 secondes.
Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
Mais en fait, Lenny caresse un rêve. il veut que l'orchestre de Vienne joue à nouveau du Gustav Mahler. Depuis 1938, donc, toutes les partitions de celui qui les a dirigées, qui a fait leur gloire jusqu'en 1909, ont été rangées dans les tiroirs. Mahler avait été leur chef et leur compositeur, et si quelques-uns, dont Bruno Walter, remontent les bretelles des musiciens viennois depuis 20 ans, le philharmonique ne le programme pas pour autant. Le grand Bruno Walter, vous vous souvenez ? C'est lui que Leni a remplacé en 1943 lorsqu'il a dirigé pour la première fois le Philharmonique de New York. Le chef qui a défendu Mahler en Europe, ami intime du compositeur, à croire que le destin devait lier Leni à Mahler. Bruno Walter était à Hambourg quand Gustav Mahler y dirigeait en 1894. Jeune répétiteur, Walter voulait rencontrer l'auteur de la première symphonie.
Elle avait été donnée à Weimar et j'avais dévoré toutes les critiques furieuses dans les journaux allemands qui parlaient de crimes contre le bon goût, contre la forme symphonique et contre toutes les règles. Il visait en particulier le troisième mouvement avec sa sardonique marche funèbre qui a déclenché la plus folle hostilité des critiques.
Ainsi, Leni a pu parler avec le chef le plus proche de Gustav Mahler.
Il a joué pour moi au piano sa première symphonie et il m'a aussi montré la partition de sa deuxième symphonie qu'il avait terminée en 1894. Il sentait que je le comprenais. Mon enthousiasme grandissait pour son œuvre et, durant les dernières années de sa vie, je me suis familiarisé avec ses nouvelles œuvres à ses côtés.
Thank you. Donc, Leni qui a dirigé tout comme Mahler, le New York Philharmonic, le Concertgebouw à Amsterdam et maintenant Vienne, a décidé que ces orchestres-là, en particulier, devaient transmettre plus que tous les autres la mémoire du compositeur. Alors maintenant, imaginez-le, arrivant aux premières répétitions de Mahler à Vienne. Il a tombé la veste et la chemise et arbore un sweatshirt sur lequel est écrit « Mahler Grooves », « Mahler c'est le pied ». Et il apostrophe l'orchestre pour leur dire grosso modo « C'est votre héritage, c'est votre patrimoine. Gustav Mahler était le chef de votre orchestre et si vous ne le rejouez pas, vous ne serez jamais respecté en tant qu'orchestre philharmonique. »
C'est beau. Très beau. Parfait, le son malérien. Et un petit peu de flottando. Les accents flottando. Cet accent doit être beau.
Pour bien signifier leur résistance, les musiciens répètent avec le matériel de l'orchestre, pas avec la partition préparée par Lenny. Ce qui donne lieu à des quiproquos sans fin. Le ton a dû monter bien des fois, mais Lenny résume très sobrement la situation. Ils avaient un préjugé défavorable. Ils pensaient que cette musique était longue, bruyante, inutilement compliquée, impudique, sentimentale et outrancière.
Par contre, vous devez donner tout ce que vous pouvez. Vous devez briser l'instrument carrément. Sinon, on ne peut pas jouer Mahler, vous le savez. Bon, on a déjà joué ensemble. Vous savez qu'il n'en sortira rien. Que tout sera ennuyeux si vous jouez normalement. Il n'y a rien de normal dans cette musique. Fortissimo, c'est tellement fortissimo.
Craig Urquhart, l'assistant de Lenny.
Et au début, lors des premières répétitions, dans l'orchestre, il entendait des choses comme « musique de merde ». Et il les faisait jouer. Et finalement, ils ont aimé ça. Ça donnait des concerts merveilleux, de la grande musique.
Je sais que ce n'est qu'une répétition, mais que répétons-nous? Vous savez jouer les notes, je n'en doute pas. Mais Mahler n'est pas là. Ce klagende, chaque trémolo doit être au maximum, un point culminant comme à la mesure 18. On ne peut pas jouer Mahler comme ça, ça ne va pas. Ce n'est pas du Mahler. Pourquoi répétons-nous? Juste pour s'en faire une idée. Numéro 17. S'il vous plaît, je me fiche de votre journée de 8 heures. On travaille ou on ne travaille pas. Autrement, il n'y aura pas de Mahler.
Lorsqu'on observe Lenny en répétition des symphonies de Gustav Mahler avec le Philharmonique de Vienne, à chaque fois, lorsqu'il n'a pas son sweatshirt Mahler Grooves, on le voit arriver élégant. La veste impeccable, le mouchoir plié dans la pochette. Et 3 minutes après le début de la répétition, la chemise est sortie du pantalon, il doit attraper une serviette éponge pour s'essuyer le front ou la mettre autour de son cou comme un boxeur. Il donne tout et à chaque répétition sans relâche. Il n'a pas non plus lésiné sur les arguments pour que l'orchestre de Vienne se réapproprie Mahler. Il leur explique que dans ses symphonies,
tout le monde est considéré comme un virtuose. Tout le monde dans l'orchestre, comme dans les chœurs. Et tout le monde est traité comme un soliste virtuose. Même le dernier du rang des seconds violons. Parce que Mahler était un grand chef et comprenait les possibilités d'un orchestre. Et savait que les musiciens étaient programmés pour atteindre un niveau solistique.
Dann kommt er.
2 mesures plus tard. Encore une fois. Trop lent.
Perfect.
Parfait.
Lenny claque sa baguette sur le pupitre.
Cigarette.
La magie entre l'indomptable américain et l'orchestre le plus conservateur de la Terre accouche d'un magnifique paradoxe. Les musiciens abdiquent devant Leni. Dès lors qu'ils perçoivent qu'il peut leur apporter le même souffle que Gustav Mahler leur avait donné en son temps. Ensemble, ils vont enregistrer en vidéo les 9 symphonies de Mahler entre 67 et 76.
It was a pure musical connection.
Jamie, la fille de Leonard Bernstein.
They understood the music. They just...
C'était un lien purement musical. Ils comprenaient vraiment la musique et avaient ce qu'ont tous les grands orchestres. Une magie collective à laquelle se branchait mon père. Et quand ils travaillaient ensemble, c'était magique. Ça ne s'explique pas, ça arrive ou pas. Tout le monde a été capable de surmonter tous les obstacles, et pas seulement mon père.
Leni fera 24 saisons avec Vienne, une de moins qu'avec l'Orchestre d'Israël, et les emmènera en tournée aux États-Unis, et surtout, justement, en Israël, en 1988, pour une 6e de Mahler mémorable. En 1982, Leni reçoit le fameux anneau qui symbolise le mariage entre le chef et l'orchestre. Suprême honneur. Suprême clin d'œil maintenant. Leni réussira même à faire jouer au Philharmonique de Vienne son prélude Fugue and Riff. Même si cela peut paraître mièvre, je veux citer Leni qui se dépatouillait du paradoxe en ces termes. L'amour, ce bon vieux gros mot tout cabossé que peu de gens comprennent aujourd'hui. Samedi prochain, nous allons découvrir à quel point le lien entre Leonard Bernstein et Gustav Mahler était indéfectible. C'était Un été avec Léni, une émission d'Emmanuel Franc préparée par Françoise Monteil et réalisée par Éric Lancien. Merci à Bernard Loupias qui a œuvré aux traductions, à Laurent Lederer qui a prêté sa voix à Léni et à Guillaume Ledu à la technique. Bonne semaine à tous.